Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business. Check-up santé au cœur de l'innovation santé. Fabien Guez.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé. C'est un marché évalué à 6 milliards de dollars en constante progression. C'est celui de l'orthodontie invisible qui vous permet d'avoir un sourire aussi sympa que le mien. Une jeune start-up française, Les Aligneurs, propose un service plus qu'original aux dentistes et orthodontistes. Et leurs cofondateurs, Mathias Ben-Simon et Alexandre Prénaud, sont avec moi sur le plateau de Check-up Santé. C'est une collaboration fructueuse pour faire profiter les patients de nouvelles solutions e-santé et améliorer leur parcours de soins. C'est celle du laboratoire AstraZeneca et son hub innovation et l'Institut national de la e-santé. Olivier Nataf, président d'AstraZeneca France, Gwenaëlle Jacquan, directrice du hub innovation de chez AstraZeneca, et Fabrice Denis, président de l'INES, l'Institut national de la e-santé, concepteur du score MDS pour évaluer les solutions e-santé et qui d'ailleurs a été élu personnalité de l'année des trophées BFM de la santé en 2021. Ils vont nous dire, tous ces gens-là vont nous dire comment ils soutiennent l'innovation. Check-up santé, c'est parti. Mathias Ben-Simon, bonjour.
Bonjour Fabien.
Alexandre Prénaud, bonjour.
Bonjour Fabien.
Alors vous êtes tous les deux cofondateurs. Il y a un troisième fondateur qui s'appelle Solal Sayada.
Tout à fait.
Qui a démarré avec vous, Mathias Ben-Simon. Alors vous, Mathias, vous êtes chirurgien dentiste.
C'est ça.
Fondateur de la start-up Les Aligneurs, c'est un beau nom.
Les Aligneurs français.
Les Aligneurs français. Alors tout d'abord, combien il y a de dentistes en France? Combien d'orthodontistes?
Globalement, on compte à peu près 40 000 dentistes sur le territoire français, et puis entre 2 000 et 3 000 orthodontistes.
Ah oui, d'accord, donc il y a vraiment beaucoup moins d'orthodontistes que de dentistes.
C'est une spécialité en fait de la chirurgie dentaire, l'orthodontie.
Et de ces deux professions, est-ce qu'il y a une, comme dans certaines professions de santé, est-ce qu'il y a une certaine pénurie ou pas?
En fait, plus on va s'éloigner des métropoles, moins il va y avoir de praticiens, et donc voilà, plus on s'éloigne, plus on va trouver de déserts médicaux, mais globalement, dans les zones urbaines, il n'y a pas énormément de pénurie. C'est vraiment quand on va s'éloigner des métropoles.
D'accord, donc à peu près 40 000 dentistes, c'est quand même...
C'est ça.
On ne manque pas de dentistes, quoi, en gros.
Quand même.
Quand même.
Quand même, dans les zones sous-dotées.
Ah, ça c'est autre chose, d'accord, il y a un déséquilibre, on peut dire.
C'est ça, déséquilibre démographique, comme alors, toutes les professions médicales.
Ouais, Alexandre Prénaud, donc vous avez rejoint un peu plus tard les Aligneurs français en 2021, je crois.
2022. Ouais.
Ah, donc c'est tout frais, alors.
Ouais, l'année dernière, exactement.
Donc vous n'êtes pas dentiste, hein, personne n'est parfait.
Malheureusement.
Mais vous avez fait les secs, ça compense quand même, largement. Alors, tous les deux, donc vous êtes dans un marché qui est vraiment en pleine croissance, c'est ça, non?
Ouais, exactement, c'est un marché, en fait, on est à l'intersection de deux marchés, on est à l'intersection de l'orthodontie et de l'esthétique, de la dentisterie esthétique. Et c'est deux marchés.
Un peu sur la vague esthétique, hein.
Vous avez raison, mais pas que. Hein. Ce sont des dispositifs médicaux sur mesure qui vont à la fois traiter des problèmes esthétiques, mais aussi des problèmes fonctionnels. Mmh. Mais vous avez raison, c'est vrai que la vague esthétique vient nourrir en fait ce marché. Les gens ont de plus en plus envie de faire attention à leur sourire à travers les réseaux sociaux. C'est vrai, c'est un des gros drivers de ce marché. Donc c'est effectivement un marché qui est en croissance. Il y a aussi un autre élément qui est important, c'est que ce sont des dispositifs qui sont pour notre solution, qui sont des dispositifs pour l'adulte, qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Cependant, les mutuelles prennent de plus en plus en charge ce type de traitement, et donc ça permet aux patients d'avoir accès à ce type de soins.
D'accord. On va en reparler juste après. Mathias Ben-Simon, pourquoi se lancer dans cette aventure dans un univers quand même assez concurrentiel, non?
Tout à fait. C'est vrai que c'est un univers assez concurrentiel. En fait, c'est très simple. Moi, fraîchement diplômé en 2017, donc mon associé et moi, Solal, on avait de plus en plus de demandes pour ce genre de traitement d'orthodontie invisible. Donc, on a décidé en fait de se former nous-mêmes pour pouvoir répondre à la demande de nos cabinets. Et donc, on a effectué donc la formation chez le leader du marché. Et on s'est rendu compte à la suite de cette formation qu'il y avait des lacunes en termes d'accompagnement. Donc on avait un petit peu l'impression d'être laissé à l'abandon, si vous voulez, et que si on allait être confronté à des problèmes lors de la réalisation d'un cas, on n'allait pas avoir d'experts à portée de main. Et donc c'est un petit peu ce problème-là qu'on a voulu adresser en créant Aligneurs français. Donc l'idée, ça a été de mettre le service au cœur de la marque.
Alors, juste une petite parenthèse, l'orthodontie, c'est quoi exactement?
L'orthodontie, en fait, c'est une spécialité de la chirurgie dentaire. Donc, en fait, après un cursus initial de 6 ans pour devenir chirurgien dentiste, on peut faire l'internat. Et donc, c'est encore une formation de 3 années supplémentaires afin de se spécialiser et devenir orthodontiste.
Et justement, la définition d'orthodontie, qu'est-ce que ça fait?
L'orthodontie, en fait, ça permet de... L'orthodontiste, il va s'occuper des malocclusions, donc des dents mal placées, et de pouvoir les remettre en place et de pouvoir retrouver une occlusion et un sourire fonctionnel et esthétique.
Mais tous les appareils ne sont pas invisibles?
Alors non, tous les appareils ne sont pas invisibles, en effet. On avait donc les techniques plus traditionnelles qui sont les techniques multi-attaches avec les bagues, qui sont des appareils fixes et visibles. Et en l'occurrence, depuis une vingtaine d'années, il y a cette révolution qui est les aligneurs invisibles, qui sont des dispositifs amovibles, confortables et indolores. Et donc, comme leur nom l'indique, qui sont invisibles.
Donc invisible, c'est quand même mieux accepté, quoi. Une personne va mieux porter son appareil si c'est invisible.
Surtout chez l'adulte, en fait. Chez l'adulte, c'était pas vraiment une option à partir d'un certain âge de mettre un appareil visible pour une vie sociale et puis épanouie. C'était pas vraiment une option que d'avoir quelque chose en métal dans la bouche. Donc là, maintenant, avec les aligneurs, c'est une possibilité.
Et est-ce que les enfants devraient voir un orthodontiste
Tout à fait.
En passant d'abord par le chez le dentiste ou alors
Généralement, le parcours de soins est fait ainsi. Ça veut dire que le chirurgien dentiste va les adresser chez un orthodontiste, mais ils peuvent après se rendre de manière spontanée chez un orthodontiste également.
Alors, Alexandre Prénaud, votre entreprise est française, franco-française.
Oui, tout à fait. Ouais.
Vous êtes installé où?
Alors, nous, on est entre le Jura et Paris. C'était une évidence pour...
Dole, exactement.
Oui, exactement, ouais. Dole, exactement. Juste au nord de Dole. En fait, c'était une évidence pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que les grands acteurs internationaux produisent à l'étranger. Et donc, premièrement, en termes d'impact du transport de l'aligneur, une fois qu'il a été produit, ça n'a pas forcément de sens. C'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est aussi... Donc, nous, ce sont des solutions qui sont vendues à des dentistes et des orthodontistes. Donc, on a besoin de réactivité avec nos clients, être proche de nos clients, dentistes orthodontistes, c'est aussi un gain de service pour eux. Et puis le troisième,
donc
c'est
vous
aussi
vous produisez et vous distribuez en France, c'est ça?
Exactement. Alors pas que en France, on en parlera, mais on est majoritairement en France. Et puis c'est aussi pour nous une fierté de pouvoir avoir un produit qui est fait en France, qui est conçu et fabriqué en France, et notamment dans le Jura. C'est une fierté pour nous et nos employés.
Alors, est-ce que vous êtes impacté un petit peu par la pénurie de matières premières?
Honnêtement, non. C'est des matériaux plastiques assez spécifiques qui ont à la fois une résistance et une flexibilité qui permet de réaliser ces mouvements. Honnêtement, non. Pour l'instant, nous, on n'a pas été impacté.
D'accord. Mathias, ben Simon, alors finalement, ce qui vous différencie de vos concurrents, parfois même très gros concurrents,
c'est ça.
Ce sont vos services, notamment la formation des dentistes et des orthodontistes.
C'est ça, c'est tout à l'heure en fait le point sur lequel on venait tout à l'heure, c'est qu'en gros, si vous voulez, le point fort d'aligneur français, ça va être son accompagnement. On a vraiment un accompagnement qui est premium, personnalisé. Et donc l'idée, c'est que en fait, un chirurgien dentiste ou un orthodontiste qui se lance avec nous, il puisse avoir accès à un expert très rapidement à portée de main avec des moyens simples, que ce soit WhatsApp, SMS, message ou via directement notre interface.
Donc et c'est plutôt digital, c'est plutôt... Ou alors vous pouvez aussi être présent chez le...
Alors exactement, en fait, dans certains cas, vous avez raison Fabien, dans certains cas, en fait, parfois ça nous arrive de se déplacer directement dans le cabinet du chirurgien dentiste pour pouvoir l'accompagner dans ses premiers cas.
D'accord. Donc, alors il y a cette partie formation qui n'est pas la même chez les dentistes et chez les orthodontistes.
Bien évidemment, parce qu'en fait, on va dire que l'orthodontiste va être plus conscient de la biomécanique qu'un chirurgien dentiste. Et un chirurgien dentiste, lui, quant à lui, il devra être formé sur toutes les bases de biomécanique en orthodontie.
D'accord. C'est peut-être pour des choses un peu plus simples.
Tout à fait. En fait, ça va pas être le même type de cas qui vont s'adresser aux orthodontistes, aux chirurgiens dentistes. Le chirurgien dentiste, lui, va pouvoir intégrer en fait l'orthodontie dans sa pratique quotidienne, donc pouvoir intégrer ça dans des plans de traitement globaux. Donc pré-prothétique ou pré-implantaire, alors que l'orthodontiste, lui, va s'intéresser à des cas qui sont beaucoup plus complexes.
D'accord. Alexandre Prénaud, vous proposez donc une suite de logiciels digital.
Oui, exactement. Donc, en fait, peut-être pour expliquer un peu comment ça se passe, un cas par ligne, parce qu'on n'en a pas parlé. Donc, tout ça commence chez le praticien, chez le dentiste ou l'orthodontiste, qui va réaliser un bilan orthodontique avec radio, photo, scan, prescription. Et grâce à notre interface, tout ça va être envoyé à nos équipes cliniques expertes, qui vont en fait réaliser un plan de traitement. Donc, le plan de traitement, c'est une conception des modèles en 3D, et donc c'est globalement les différentes étapes des aligneurs, les différentes étapes du traitement qui vont être proposées au dentiste ou à l'orthodontiste. Une fois que c'est validé, ça passe à notre production dans le Jura avec du coup impression 3D, thermoformage, découpe classique, un processus industriel. Et en fait, tout ce processus que je vous ai décrit, il se passe au travers de notre application qui est en fait l'interface. Elle est sur web, sur mobile, et c'est une application qui permet en fait de collaborer entre nos équipes et nos clients pour réaliser les meilleurs plans de traitement.
Vous disiez, vous êtes présent en France, mais aussi ailleurs qu'en France.
Alors, exactement, on est présent surtout dans les pays francophones, hein, puisque les aligneurs français, donc on est présent en Belgique, en Suisse, au Luxembourg.
Ça fait combien de patients qui utilisent vos produits? Combien de dentistes contactés?
Alors, on a plusieurs milliers. Avec vous. Ouais, on a plusieurs milliers de patients qui ont été traités ou qui sont en cours de traitement. En termes de dentistes, en fait, on a un réseau de dentistes et d'orthodontistes qui est aujourd'hui à peu près de 500 praticiens qui sont formés et qui travaillent avec nous. Et donc, en fait, c'est aussi évidemment, c'est une communauté qui a participé à l'aventure avec Mathias Sol depuis le début et qui fonctionne pour l'instant beaucoup sur de la croissance organique avec de la recommandation entre praticiens qui utilisent la solution et qui nous ont aidés à croître.
Mathias et Ben Simon, donc il y a une affaire qui roule. Comment voyez-vous l'avenir?
Bah écoutez, assez confiant. Hein. On espère continuer à croître sur le marché français avec une croissance de la même manière organique et puis commencer à croître de plus en plus sur le marché français. Et puis on espère également pouvoir attaquer d'autres marchés, voilà, comme on le fait aujourd'hui sur les marchés de la Suisse, la Belgique, le Luxembourg et puis sur d'autres marchés francophones et francophiles. Voilà.
Eh ben on vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup Alexandre Prénaud. Merci beaucoup Mathias Ben-Simon. On va à présent accueillir Olivier Natas, président du laboratoire AstraZeneca France, Fabrice Denis, président de l'Institut National de la e-Santé, et Gwenaëlle Jacquan, qui est directrice du Hub Innovation chez AstraZeneca.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.
Gwenaëlle Jacquan, bonjour.
Bonjour.
Olivier Nataf, bonjour.
Bonjour Fabien.
Fabrice Denis, bonjour.
Bonjour.
Alors Olivier Nataf, on vous connaît bien, vous êtes le président du laboratoire AstraZeneca France. Gros laboratoire, Big Pharma, on peut dire, dans le top 10 des laboratoires mondiaux. Vous produisez des médicaments, heureusement, vous les distribuez, mais on dirait que ça ne suffit plus. On est d'accord? Est-ce que l'innovation, ça ne suffit plus les médicaments? Ça n'intéresse plus simplement l'innovation, n'intéresse plus que les médicaments?
Alors l'innovation, elle est beaucoup plus large, effectivement, que les médicaments. C'est-à-dire qu'une approche de santé publique ou de santé d'innovation, c'est une approche qui est centrée patient. Et donc quand on s'intéresse aux patients, on s'intéresse évidemment à une prise en charge pluridisciplinaire, ça se passe comme ça entre professionnels de santé dans le système de soins. Et puis surtout ce que l'on se dit, c'est qu'on veut passer d'un système de soins qui s'occupe du soin à un système de santé, donc qui inclut aussi la prévention.
Qui inclut la prévention,
oui. Et donc il faut se focaliser non seulement sur les patients, mais aussi sur les citoyens. Et donc l'innovation au-delà du médicament, et notamment l'innovation numérique, puisque c'est ce dont on va parler de l'e-santé, c'est un domaine d'innovation qui va se rapprocher du patient, se rapprocher du citoyen, permettre de faire mieux en termes de prévention, permettre d'avoir aussi un accès plus équitable sur l'ensemble du territoire, quelque chose de dématérialisé ou de à distance, va permettre justement d'élargir l'accès à l'innovation et donc l'accès des patients au système de santé.
C'est pas nouveau chez AstraZeneca.
Alors c'est pas nouveau, ça fait
un peu dans l'ADN d'AstraZeneca, non?
Oui, c'est dans notre ADN
d'être un peu l'innovation.
Voilà, de toute façon dans l'innovation d'un point de vue thérapeutique, d'être dans l'innovation aussi d'un point de vue diagnostique, puisqu'on travaille beaucoup aussi avec des équipes de diagnostic, notamment en cancérologie pour les tests de biomarqueurs et l'identification des patients qui peuvent bénéficier d'un traitement précis en médecine de précision. Et maintenant, évidemment, toute la technologie numérique apporte un plus.
Donc maintenant, l'industrie pharma en général, elle s'intéresse plus maintenant à des collaborations avec tout l'écosystème de santé.
C'est exactement ça. Il faut que ça réponde à un besoin. Il faut que ça réponde à un besoin, soit du professionnel de santé en termes d'organisation de son travail, de son activité, mais aussi des patients dans leur parcours pour qu'il y ait de moins en moins d'errances diagnostiques, pour qu'il y ait de plus en plus d'efficacité dans le parcours du patient tout au long de sa prise en charge.
Alors, Gwenaëlle Jacquan, donc vous êtes directrice du Hub Innovation de chez AstraZeneca. Que vous dirigez? Vous êtes la directrice de ce Hub. Expliquez-nous un peu la genèse un peu de ce Hub.
Alors, ce Hub Innovation, il est né il y a 3 ans, justement, comme le disait Olivier, dans cette démarche un peu de structuration de tout ce qu'on faisait en innovation en santé. C'est pas nouveau, c'est une démarche qui est progressive, mais plus justement on commençait à faire des partenariats avec notamment des start-up ou des acteurs privés et publics, plus on sentait ce besoin d'accompagner et de travailler ensemble sur la démonstration de valeur. Donc, pourquoi les start-up viendraient, par exemple, travailler avec un laboratoire pharmaceutique pour développer leurs solutions digitales innovantes? Et pourquoi nous aussi? Qu'est-ce qu'on peut leur apporter? Donc, c'est vraiment tout le travail qu'on fait aujourd'hui au sein du Hub Innovation. C'est à la fois d'identifier et d'accompagner des solutions digitales innovantes au sein des parcours patients, de nos aires thérapeutiques. C'est important parce que finalement, les start-up, elles viennent plus seulement chercher un financement, elles viennent chercher une expertise. On leur ouvre finalement les portes du laboratoire pharmaceutique et elles viennent comprendre aussi cet environnement-là chez les industriels, mais aussi l'environnement qui est public. Et c'est tout le rôle du Hub Innovation, c'est d'être connecté justement à son environnement de la e-santé pour encore une fois qu'on réponde à un besoin, mais aussi qu'on aille vers un objectif qui est commun. Nous, on ne veut pas seulement financer une solution digitale, par exemple, pour qu'elles soient propriétaires d'AstraZeneca. C'est absolument pas le but. On vient les accompagner à grandir, et les accompagner à grandir, c'est garantir qu'elles soient viables au-delà de notre accompagnement, justement, qu'elles soient viables sur un marché qui corresponde aux usages des professionnels de santé, aux usages des patients, et donc qu'elles soient reconnues sous des critères qui sont communs, que ce soit nos critères ou les critères d'autres acteurs.
Alors, Olivier Natta, vous aidez, on va dire le mot aider, des solutions qui se rapprochent quand même, qui correspondent un peu à vos aires thérapeutiques ou pas?
Oui, c'est là où on a une pertinence, hein, c'est ce que disait Guénaëlle, c'est-à-dire que, moi j'aime bien le mot qu'elle a utilisé, on accompagne pour qu'elle se développe indépendamment de nous, qu'elle serve justement des aires thérapeutiques ou des pathologies dans lesquelles on a de l'expertise, ce qui veut dire aussi qu'on a le réseau d'experts, de professionnels de santé qui ont besoin justement de ces solutions et d'améliorer la prise en charge des patients. Donc il faut aller là où on connaît et là où on peut apporter le plus d'expertise.
Alors Fabrice Denis, vous êtes cancérologue, vous présidez l'Institut National de la e-Santé, l'INES, qui est relativement récent. Vous avez conçu, vous êtes connu pour ça, vous avez conçu quand même en 2020 l'appli maladiecoronavirus.fr qui a cartonné quand même.
Plutôt oui.
On peut le dire. Et vous avez été élu personnalité de santé des trophées BFM de la santé il y a 2 ans. Donc vous avez lancé il y a une petite année l'INES. C'est quoi l'INES alors?
Alors l'INES est un institut privé qui a été lancé en mai dernier, donc c'est très récent, et qui visait à répondre à 2 problématiques. La première, c'était de former les professionnels de santé à la e-santé, parce qu'on ne prescrit que ce que l'on connaît, et là il y a effectivement besoin d'acculturer tout cet environnement.
C'est sûr, ouais.
Et puis l'autre élément, c'était aussi de mettre à disposition des patients des outils qui étaient validés et pertinents cliniquement, parce qu'il y en a des centaines de milliers d'outils numériques en santé, et les vrais outils pertinents, validés, et il y en a un peu moins d'une centaine.
Et donc c'est une entreprise privée, mais vous avez quelques collaborateurs, quelques experts j'imagine?
On a 60 experts et collaborateurs académiques, enseignants, chercheurs, institutionnels. Effectivement, l'enjeu est de pouvoir créer une base de données d'enseignement rapidement pour acculturer tout le monde très vite.
Univers différent d'ailleurs, institutionnel,
absolument, privé, absolument, ouais. D'institutions publiques ou privées, chercheurs, beaucoup de médecins bien sûr, des ingénieurs, et des industriels, oui.
D'accord. Et vous avez donc conçu un score qu'on appelle le score MDS?
C'est ça, c'est pour Medical Digital Solution Score. En fait, c'est un score qui permet pour une start-up d'avoir une évaluation à l'instant où elle le souhaite, de sa maturité sur le plan clinique, donc niveau de preuve clinique.
Et peut-être de son intérêt aussi, peut-être de son intérêt.
Effectivement, son intérêt, ça lui permet déjà de voir comment elle va être perçue par les éventuels prescripteurs. Est-ce que cette solution répond à une vraie question médicale? Ça paraît tout bête, mais il y a pratiquement 8% des solutions sur le marché qui ne répondent pas à une problématique médicale. Ça lui permet surtout d'avoir un guide de développement pour aller idéalement vers le remboursement, parce que cet outil permet notamment un calcul de probabilité de remboursement de cette solution en se basant sur niveau de preuve clinique notamment.
D'accord, donc ça c'est l'idée c'est d'aller vers un remboursement.
Ouais. Oui, parce que le modèle économique en e-santé, c'est un peu...
Partiment où ça rend service à un patient,
voilà,
ça améliore
s'il y a un bénéfice
santé.
Clinique, l'idée c'est d'aller vers un modèle économique assez connu, qui est celui du remboursement, et pour cela on connaît tous les étapes à franchir qui sont difficiles et longues. L'idée c'est d'accélérer les choses, puisque si les startups, dès le démarrage du développement de leur outil, savent quelles sont les lignes à franchir et les modalités pour les franchir, elles iront plus vite. L'idée c'est de gagner des années de l'idée au remboursement et au déploiement.
Alors, Olivier Nataf, donc l'INES vous a rejoint cette année pour la troisième édition, c'est ça?
Alors, nous avons rejoint l'INES, on est partenaire avec l'INES, on soutient l'INES, on s'est rejoint comme auparavant avec Fabrice, puisqu'on était aussi partenaire de Maladie Coronavirus, on a été partenaire aussi, Fabrice a été le premier, je pense, si ce n'est un des premiers, à avoir une solution digitale remboursée par la Haute Autorité de Santé dans le cancer du poumon, et donc tout ça, ça contribue justement à l'expertise que Fabrice a pu établir, et donc aussi à ce que nous voulions en termes de nécessité justement de pouvoir connaître les étapes qui vont pouvoir aboutir au remboursement. Et il est très important quand on met une solution à disposition de pouvoir se dire mais en fait à quoi ça sert, comment je l'évalue et comment je valorise ce que cela apporte au système de santé, au système de soins, aux médecins, aux patients. Et donc le fait d'avoir un score, le fait d'avoir une méthode, et c'est ce que fait aussi le hub innovation d'AstraZeneca au sein de notre entreprise, c'est apporter de la discipline, de la rigueur, de la méthode pour que les choses soient évaluables, les choses soient comparables et que l'on puisse comprendre justement ce qu'elles apportent. On n'est pas là pour faire des choses qui ne servent à rien, qui n'apportent rien, qui ne sont pas concrètes.
Donc gagner une vraie complémentarité, une vraie synergie.
Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on a rejoint effectivement notamment sur cette partie du scoring de ces startups-là. Ce qui nous intéressait, c'est dépasser les critères propres d'AstraZeneca, mais se dire que quand on accompagne encore une fois une solution digitale, on sait qu'elle va aboutir quelque part, qu'elle amènera peut-être jusqu'au remboursement. Et surtout, pour les startups aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a un référentiel qui est commun. C'est pas en fonction de l'acteur auquel je vais aller voir, je vais bouger, pivoter mon business model. Non, aujourd'hui, on a des critères qui sont des référentiels. Et c'est aussi ce vers quoi tend la feuille de route santé numérique du gouvernement.
Et en 3 ans, vous avez quand même accompagné pas mal de startups.
Plus de 44 startups.
Ouais, des retours.
Des retours très positifs, ouais. Heureusement, et qui sont sur des projets plus ou moins à long terme, sur 1 à 3 ans environ. On a une très belle réussite, notamment avec Vicasm, qui est une solution d'intelligence artificielle via un agent conversationnel, donc principalement un chatbot messenger, qui est dédié justement aux patients qui souffrent déjà d'asthme, mais qui auraient un asthme qui n'est pas contrôlé. Donc à D'accord. travers leur conversation, et c'est ça qui est intéressant, une conversation qui est très naturelle, comme j'aurais avec n'importe qui, on va pouvoir leur dire, détecter quelque chose, en leur disant, là en fait, ce que vous me dites, dans un langage en effet qui est absolument pas médical, il y a sans doute une complexité, il faut que vous allez consulter. Et les chiffres en effet de ce sort de tunnel de conversion sont très importants parce que sur 95 000 utilisateurs, on a 27 000 personnes qui sont identifiées comme à risque et potentiellement D'accord. plus de 2500 personnes qui prennent rendez-vous chez un médecin, qui est un vrai sujet pour nous, notamment dans les maladies chroniques, justement d'être identifiées très tôt.
Vous avez d'autres exemples ou un autre exemple?
On accompagne aussi par exemple une application mobile qui s'appelle Quit. Ce qui est intéressant, c'est que là on a un petit peu changé le modèle, c'est-à-dire qu'on est allé là où nos patients se trouvent. On n'est pas aller identifier déjà des patients. Quit, c'est une application, comme son nom l'indique, pour arrêter de fumer. Et donc, on vient leur pousser là aussi un questionnaire qui vont leur permettre d'identifier s'ils sont à risque de BPCO. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que sur 100 000 utilisateurs, 66 000 acceptent de prendre ce questionnaire dédié à la BPCO. Donc, ça veut quand même dire déjà qu'on est sur une cible de personnes qui sont sensibilisées, qui ont envie d'en savoir plus. Et derrière, là encore, on va les accompagner à se poser des questions et surtout aller en poser auprès d'un spécialiste pour être diagnostiqué.
Olivier Nataf, vous entrez dans le capital des startups?
Pas du tout. C'est pas du tout l'objectif.
C'est juste un accompagnement.
C'est un accompagnement. L'objectif, il est vraiment opérationnel. Comme le disait Guénaël, quand on a 95 000 utilisateurs, 100 000 utilisateurs, ça commence à valoir quelque chose.
On va pas parler, bien sûr, des mauvaises choses, mais parfois, est-ce que vous êtes déçu? Est-ce que vous allez, il faut parfois avoir le courage de dire à une startup, ça va pas marcher?
Régulièrement lorsqu'on les accompagne, et l'idéal c'est plutôt d'arriver en amont qu'en aval une fois que la solution est quasi en mode déploiement. Oui, on est déçu. On a fait une étude pour valider ce score. D'ailleurs, c'est la seule étude clinique et scientifique publiée sur l'intérêt d'un scoring, justement, pour évaluer rapidement toutes ces performances de ces outils. Globalement, on a observé
c'est le seul outil au monde.
Cet outil de préfiltrage rapide, oui, il y a des outils d'évaluation très approfondis à 4 ou 5 en question qui sont pas utilisés mais qui existent, mais globalement oui, c'est le seul outil. Alors dans cette étude, on a montré que 3/4 des outils de cette étude, il y avait 70 applications, 3/4 n'avaient aucun niveau de preuve et pourtant étaient déjà déployés, voire même des dispositifs médicaux. Donc ça, forcément, ça pose question, puisque utiliser des outils qui n'ont pas un début de niveau de preuve clinique, c'est un petit peu ennuyeux. On a aussi observé que pas mal de startups n'avaient pas de direction médicale, à peu près 9%. Ça peut paraître ésotérique, mais en fait c'est majeur, puisque toute mise à jour d'algorithme, si elle n'est pas supervisée, peut conduire à des catastrophes, et il y en a eu. Donc l'idée, c'est vraiment d'éviter des catastrophes et finalement de donner confiance aux futurs prescripteurs en leur montrant, parce qu'ils n'y connaissent pas grand-chose, ils ne peuvent pas évaluer sur un coin de table une application, mais avec un visuel sous forme de digiscore, avec des lettres A, B, C, D, E, un peu comme pour les Nutri-Score, eh bien en un coup d'œil, les établissements et les prescripteurs voient si le niveau de preuve est bon, si la techno est bonne, si la structuration de la start-up est bonne, et finalement on va progressivement se former, même si on n'y connaissait rien au départ.
Olivier Nataf, vous collaborez avec l'INES, mais pas qu'avec l'INES. AstraZeneca, pas mal de...
Oui, on a plusieurs collaborations, oui. Effectivement, institutionnelles ou alors avec des start-up. Et ce qui est important, encore une fois, dans tout ça, c'est l'apprentissage et la capacité à progresser. Et le score que l'INES met en place n'est pas une sanction. C'est-à-dire que si vous avez un mauvais score, vous allez avoir aussi une direction pour l'améliorer et repasser le test, en quelque sorte, et avoir un meilleur score, améliorer votre score, donc améliorer votre solution et la rendre viable. Et donc ça aussi, c'est quelque chose d'absolument capital.
Guénaël, pour presque finir, l'intelligence artificielle, elle est maintenant partout, dans toutes les solutions?
Elle est partout et on voit aussi qu'elle est de plus en plus comprise aussi, et que notamment les professionnels de santé sont de plus en plus volontaires. Parce que l'intelligence artificielle, il faut véritablement la voir comme un complément de la pratique médicale, que ce soit pour le patient ou pour le professionnel de santé. Et nous, c'est là où justement on souhaite accompagner ces solutions digitales qui permettre de gagner du temps. Vous en parliez juste avant avec les chirurgiens dentistes. Effectivement, ce temps, il est précieux aujourd'hui. Il y a de moins en moins de procès de santé et l'intelligence artificielle, elle va nous permettre de combler peut-être ce temps qui est perdu aujourd'hui.
Alors justement, Fabrice Denis, donc vous êtes médecin, personne n'est parfait aussi. C'est vrai qu'on aide les start-up, mais il faut aussi former les médecins. Est-ce qu'ils sont prêts à être formés? Est-ce qu'ils sont demandeurs? Est-ce qu'ils sont, ils ont la capacité de se former?
Alors, la capacité de se former, ça, l'Institut va leur proposer.
Population qui vieillit aussi. Hein,
alors, absolument, donc, résistance au changement. Hein, mm-hmm. Sauf que depuis quelques mois, des outils de thérapie digitale deviennent maintenant des standards de soins. C'est la télésurveillance en cancérologie, pour laquelle on a rédigé et publié les premières recommandations internationales qui indiquent que c'est le meilleur parcours de soins en oncologie. Donc, faut le proposer. On a une obligation de moyens, les médecins. Et l'autre chose, c'est qu'on a des thérapies digitales qui maintenant passent en première ligne. Par exemple, pour les traitements de l'insomnie, notamment en Angleterre, la première ligne, c'est pas les hypnotiques, les benzodiazépines, c'est pas les médicaments. Ce sont des thérapies cognitives
digitales.
Mm-hmm. Donc, il va falloir effectivement se former, et c'est pour ça qu'on lance des cycles de formation rapide et accélérée pour les étudiants, mais aussi pour les seniors. Hein, ça s'appellera les lundis de l'INES à partir d'avril, 20 minutes par semaine pour se former à la e-santé sur différents sujets comme l'IA, la télémédecine, etc.
Eh bien, bravo pour cette collaboration. Merci Guénel Jacquan, merci Olivier Nataf.
Merci Fabien.
Et merci Fabrice Zoni. Voilà, merci. C'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine.